7 milliards de voisins. C'est la radio mondiale.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, émission éducation comme chaque vendredi, à l'heure où les inquiétudes de l'éducation nationale en France se font plus pressantes, alors que les restrictions budgétaires et les suppressions de postes continuent pour la rentrée prochaine. Nous en discutons avec Chantal Aounou et Émeric Patricot, vous êtes tous les deux professeurs dans des quartiers sensibles, et Marc Douer, vous êtes président de l'Observatoire des zones prioritaires, les ZEP. Et tout de suite, je vous propose, pas besoin de vous rafraîchir la mémoire, c'est votre quotidien, mais une petite photo sonore pour nos auditeurs. Discussion à la sortie entre élèves d'un collège de ZEP à Paris.
Moi, ce que je pense des professeurs, c'est que c'est des gros racistes. Par exemple, si un arabe ou un noir, il fait un truc, ils font sa fête au collège. Mais quand c'est un babtou, je sais pas qui, un français, ils lui font rien. Ou sinon, ils sortent des trucs de ouf aussi. Comme par exemple, il me traite d'hystérique. Il y a un élève, il dit c'est quoi hystérique. Il dit retourne-toi et regarde c'est quoi une hystérique. En parlant de moi. Je lui dis, comment ça vous me traitez d'hystérique? Il me fait, si t'es pas d'accord, tu prends tes affaires et tu sors.
Ça veut dire quoi pour toi, bordéliser un prof?
C'est quand on fait n'importe quoi en cours. Et après le cours, il prend des médicaments, une petite cigarette pour se calmer. Parce que sinon, il va devenir fou. Et parce que nous aussi, on était fous en cours, en fait. Quand on lance des boulettes de gomme, quand on parle mal au prof. Mais juste pour le plaisir.
Jeter les tables, gêner le prof, jeter des papiers, jeter des compas. Ouais, plusieurs choses. Pour empêcher de faire avancer le cours et empêcher d'écrire. Écrire le moins, c'est ça le but.
La pire chose que j'ai faite en classe, insulter un professeur.
Pourquoi tu l'as fait?
Oh, parce qu'il m'a énervé.
Souvent, il crie sur tous les élèves en même temps, alors que c'est un seul élève. On dirait qu'ils ont peur de lui. On dirait qu'ils ont peur de se faire frapper.
Ils ont raison d'avoir peur?
Non. Ils sont adultes, c'est on est encore des enfants. Normalement, ils peuvent même appeler la police. Mais là, il faut rien.
C'est jamais arrivé qu'un élève frappe un professeur?
Ah si, c'est déjà arrivé. Déjà, juste dans la classe à mon petit frère, il y a un élève qui s'est battu contre un prof.
C'est gentil de leur part, ils veulent nous expliquer. Mais il y en a certains, ils ne devraient pas trop se mobiliser sur les élèves qui ne travaillent pas, en fait.
Et pourquoi?
Bah, parce qu'il y en a qui veulent avancer. Et en fait, eux, ils se préoccupent trop de ces élèves-là, de ceux qui ne travaillent pas assez.
Toi, tu fais partie de quels élèves?
Avant, je faisais partie de ceux qui ne travaillaient pas. Et après avoir compris l'enjeu de mes études, bah, je fais partie de ceux qui travaillent, quoi.
Émeric Patricot, Chantal Aounou et Marc Douer, est-ce que ce que l'on vient d'entendre, ce sont juste des jeunes qui veulent se rendre intéressants dès qu'il y a un micro d'un média qui arrive à la sortie d'un collège, ou est-ce que ça correspond à votre réalité, Marc Douer?
Il y a certainement un peu des deux. Moi, je serais tenté de dire plutôt, voilà, vous avez une petite tranche de 2 minutes et vous faites de la formation initiale d'enseignant à partir de cette tranche-là. D'ailleurs, vous allez exercer.
Vous dire que nous, les journalistes, on devrait venir dans les IUFM, enfin, dans ce qui était les IUFM.
Ben oui, les IUFM ne faisaient pas ça. Ne faisaient pas ça. On pouvait le déplorer, ils avaient d'autres qualités, ils ne faisaient pas ça. Aujourd'hui, on lance.
Il y en a plein les médias. Donc,
on lance des jeunes enseignants sans formation confrontés à ces situations. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la gestion groupe, l'hétérogénéité, la violence, leur rapport individuel, comment se situer.
Attendez, maintenant, il y a des profs qui interviennent pour former les autres là-dessus, quand même. La gestion d'une classe, aujourd'hui, on en a plein. Des cours de gestion de classe.
Ah bon?
Non.
De coaching? Parler de quoi?
Oui.
Bah, je oui peut-être des organismes de... privés qui organisent ça. Mais dans le cadre de l'institution, on n'a pas remplacé avec les nouveaux dispositifs dits de formation, ce qui devait exister. Il y avait déjà des carences du temps des UFM, mais alors là, c'est race campagne.
Et puis je pense qu'il y a un tabou, c'est le fait qu'on est vraiment dans un système à 2 vitesses. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes classes partout. Enfin, il y a des classes assez calmes, et il y en a d'autres qui sont tout simplement infernales. C'est pas le même métier, en fait.
Mais au sein même d'un établissement
ZEP,
non.
Alors, c'est une vérité qui est délicate à dire, mais j'ai fait un certain nombre d'établissements, et dans le 93, il y a des classes où tout se passe très bien, etc. Mais il y a des sortes de nœuds qui deviennent ingérables, tout simplement parce qu'il y a 10 perturbateurs sur 20, 15. Ouais. Bon, et c'est plus le même métier.
Alors, le quotidien que vous décrivez dans votre livre, Émeric Patricot, c'est d'abord un quotidien de la peur, hein, les premiers mois, voire plus longtemps. Hein, vous dites, au terme de l'heure, je faisais rapidement sortir les élèves, puis je m'enfermais à clé quelques minutes pour attendre la deuxième sonnerie. Le temps que la foule quitte les couloirs, le calme revenu, je sortais à mon tour et je traversais rapidement l'établissement.
Alors, peur, non, mais
c'est
plus.
C'est le couvre-feu, quoi.
Non, c'est plus l'angoisse. stress du volume sonore, des bousculades. Donc c'est vrai que j'évitais les couloirs quand il y avait des foules d'élèves. C'est pas la peur, j'ai jamais pensé me prendre des coups. J'ai déjà vu des profs prendre des coups et j'ai déjà moi-même imaginé donner des coups quand je voyais des élèves souvent se battre en cours.
Ouais. Mais est-ce que quand même on se dit pas quand on voit votre profil, leur diplômé d'HEC agrégé de lettres, que dans le fond il ne manque pas l'essentiel à des profs surdiplômés comme vous aussi Chantal Aounou, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se glisser dans la peau d'élèves qui sont totalement étrangers à votre système de valeurs. Vous avez 30 ans de vie d'excellente élève tous les deux.
Non, moi je m'entends très bien avec les élèves individuellement, c'est des gens adorables. C'est des effets de groupe ça. Mais les élèves individuellement, je me sens au contraire très proche d'eux. Même culturellement, je suis baigné de culture américaine, j'ai toujours aimé le rap avant même d'aller d'être enseignant. Donc je me sens, il y a aucun gouffre culturel, je pense pas. C'est au-delà de ça, c'est une misère culturelle, misère physique.
Vous êtes d'accord, Chantal?
Comment dirais-je?
Vous semblez gênée depuis le début de l'émission, Chantal. Vous réfléchissez?
Non, mais oui, je réfléchis beaucoup. Je suis pas gênée, simplement, j'écoute attentivement ce que disent les élèves et je pense que oui, il y a quand même du racisme. Je le dis très clairement, il peut y en avoir à l'égard de ses élèves. Il ne faut pas se le cacher. Alors, je dis ça parce que, par exemple, moi, dans ma classe, dans une de mes classes, on est, moi, y compris les élèves, on est à 85% français, mais d'origine lointaine.
Vous êtes, alors pour les auditeurs qui n'ont pas d'image, vous êtes d'origine camerounaise, vous cultivez un look d'intello style écrivain noir new-yorkaise.
Béninoise, je suis.
Pardon, d'origine béninoise, j'ai tout faux. Enfin voilà.
Vous... Bah, d'intello new-yorkaise.
Vous avez des petites lunettes rondes.
Mais j'ai vécu aux États-Unis, donc.
Ah voilà.
Et puis j'ai fait mes études aux États-Unis, en Angleterre. En Afrique du Sud, non, j'ai baigné dans des atmosphères, je dirais, un peu universelles. Donc, ça change la vie, quand même.
Est-ce que le fait d'être une enseignante noire change quelque chose dans votre relation avec les élèves, puisque c'est vous qui en avez parlé? C'est-à-dire, oui, il y a du racisme entre les enseignants, qui sont en grande majorité blancs. D'ailleurs, vous le disiez dans votre livre, ça a été un des grands chocs pour vous, Aymeric Patricot, hein. C'est finalement de découvrir que dans ces zones-là, 95% des professeurs sont blancs et 95% des élèves non blancs.
Oui, c'est quelque chose qui est jamais dit, mais c'est flagrant. Quand on va dans les premiers collèges que j'ai fait, j'étais le seul blanc à traverser des villes. Et c'est pas du tout pour m'en plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire je pense qu'on sous-estime les gouffres sociaux complètement, on sous-estime le...
Attends, la couleur, c'est pas des gouffres sociaux.
Non, évidemment, mais c'est aussi aux États-Unis, ils parlent de color line. C'est-à-dire, ils disent, il y a toujours une sorte d'évidence visuelle qui fait que les gens sont ramenés un peu à leurs origines, malgré...
Vous savez qu'on a très peur en France de parler de ça.
Oui, je pense qu'en France, on a du mal à en parler.
Oui, on a très peur d'en parler, mais moi, de toute façon, j'en parle.
Comment vous en parlez dans votre classe?
Ah, mais je suis...
Les élèves vous en parlent, non? De votre couleur?
Oui, parce que...
Vous savez, ils sont assez directs, en général.
Non, c'est là, parce que j'ai eu un coup de folie le 10 mai. Le 10 mai 2011. Et j'ai décidé que j'allais un peu changer de look, effectivement. Mes élèves m'ont vu revenir, sur le coup.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Oh, ben, je suis allée chez le coiffeur. Bon, bref. Et... oui, parce que j'ai changé la couleur de mes cheveux, ce qui n'a rien de... Bon. Mes élèves, les petits noirs, m'ont regardé et ils étaient un petit peu interloqués. Et la question qu'ils m'ont demandé, c'est « Madame, mais qu'est-ce qui vous a pris ?» Alors, il y a une élève qui me dit « Moi, je sais ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu montrer que vous aviez bien la peau noire. » Je dis « Peut-être que c'est pas faux, après tout. » peut-être que c'était pour montrer aussi qu'on peut aller au-delà de l'altérité ou être dans l'altérité et qu'il ne fallait pas forcément se fier à une couleur de peau, que voilà, nous étions autre chose que simplement une couleur de peau, voilà. Je sais plus ce que vous me demandez.
Alors vous en avez profité, débat philosophique, civique sur la question, parce que tout est prétexte.
On débat surtout sur le racisme, le non-racisme, enfin sur tous les sujets qu'il...
Est-ce que ce problème-là, finalement, empêche d'enseigner ou d'apprendre?
Oui.
Émeric Patricot.
Je suis un peu surpris par le thème du racisme des profs. J'ai jamais noté. Alors, je serais curieux d'avoir des témoignages là-dessus. Je pense que c'est difficile d'être... En général, les profs que j'ai pu rencontrer étaient tous...
Ça a été évoqué dans les témoignages là, des élèves.
Oui, hein. Mais ça, c'est un... Souvent, les élèves testent. Moi aussi, j'ai souvent entendu dire « Ouais, monsieur, vous êtes raciste. » Puis quand ils voient que ça prend pas du tout, ils arrêtent. C'est une manière de...
Sinon, vous seriez raciste à l'encontre de toute votre classe.
C'est impossible d'être... À ce moment, on arrête le boulot tout de suite. C'est impossible d'être raciste dans ce métier-là. Il faut aimer les élèves. C'est-à-dire, tous les profs qui sont là et qui restent en collège aiment les élèves. Ils sont là pour les aider.
C'est pas ce que disent les élèves, quand même.
Ah, je suis pas d'accord.
Chantal, je suis pas d'accord non plus. Il y a peut-être une vision.
Enfin, en tout cas, moi j'y
suis depuis, j'enseigne depuis, une vingtaine d'années. Je pense que la première fois que je suis arrivée en tant que qu'Africaine et femme, je crois qu'on m'a demandé de prouver que j'étais capable d'enseigner.
Je veux bien le croire.
De qui parlez-vous ? Des adultes ou
des adultes, mais
ça,
oui.
Ou des élèves.
J'ai subi une forme de bizutage qui était un petit peu extrême, mais qui aussi se rapportait au fait que j'étais noire. Il ne faut pas s'en cacher aussi.
Je croyais que vous parliez des rapports entre élèves et profs.
Les rapports entre élèves et profs, il y a des dérapages. Je ne veux pas les citer. Mais il y a eu des cas extrêmement graves, oui, de certains, mais... pas tous, de profs qui clairement ne sont pas effectivement à leur place.
Mais aujourd'hui, la ghettoisation beaucoup plus visuelle à l'œil nu, hein, Marc Douer, est-ce que ça pose un problème dans les zones d'éducation prioritaire ?
L'ouvrage cité tout à l'heure, c'était « Enseigner en territoire difficile ». Je voudrais revenir sur cette expression, parce que qu'est-ce qui est difficile ? Est-ce que c'est le territoire ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un territoire difficile ? Un territoire n'a d'existence que par les habitants qui le peuplent. Et les habitants qui le peuplent, ils vivent au quotidien une situation économique, sociale, culturelle, familiale extrêmement compliquée. Où l'horizon, c'est le lendemain. L'horizon, c'est le lendemain. Qui repousse beaucoup sur les mamans, d'ailleurs. N'oublions pas en même temps qu'au fil des années, l'école qui représente toujours un espoir pour les familles, toujours, a vu se péricliter cette espérance. C'est-à-dire que on est confronté aussi au chômage des jeunes diplômés dans ces banlieues. Il y a quand même un certain nombre de jeunes qui sortent, qui font des études, quelles que soient ces études, qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a une ségrégation de l'emploi. Et donc, ça renvoie quand même une réalité de ségrégation sociale, mais aussi ethnique.
Mais tout ce que vous décrivez, ça veut dire que si on met deux élèves de plus par classe pour faire des réductions budgétaires dans les zones d'éducation prioritaire, ça n'est pas ça qui va poser problème. Ce qui pose problème à la base, c'est la pauvreté de vos élèves.
Ah oui, il y a une misère. Bah, il y a 40% de chômage dans ces quartiers-là.
Et le ghetto. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où je rencontrais ces jours derniers des maires, à partir du moment où on a des ghettos qui se renforce, qui se développe. On est dans une logique, plus une logique de faire ensemble, de faire société ensemble. C'est du développement séparé.
Émeric Patricot, vous racontez dans votre livre que vous avez grandi dans une ville ouvrière assez pauvre en Normandie, mais où la mixité sociale se faisait sur un mode relativement apaisé. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'étais au Havre, en fait. C'était une ville assez pauvre, avec beaucoup de chômage, 20% quand j'étais jeune. Et il y avait toutes les classes sociales, dans le sens où j'avais des camarades dont les parents étaient ouvriers, ou même au chômage, etc. Moi, je venais d'un milieu plus aisé. Et je sentais pas de... Il y avait une forme de... Alors, je vais peut-être paraître naïf, mais globalement, ça allait. Il y avait pas de racket, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de haine. J'ai jamais senti de la haine entre classes sociales. En tout cas, dans mes établissements. Ce que j'ai vu en tant que prof, j'ai l'impression qu'il y a des gouffres sociaux qui se sont fortement accentués.
Alors que paradoxalement, les niveaux de vie ne cessent de se rapprocher en termes d'habitat, d'habitudes de consommation, quand même.
Je pense qu'on sous-estime une certaine misère économique. Le premier collège que j'ai fait, il y avait des élèves qui vivaient dans les escaliers de leur appartement. On savait que leur mère était prostituée et que les gamins dormaient dans les escaliers. Bon. C'est une misère que j'avais lu ça dans Zola, je pensais que ça existait au 19e, peut-être il y a 50 ans, 30 ans, je pensais que ça avait disparu. En fait, je pense qu'il y a une réalité sociale terrifiante qu'on ne veut pas forcément voir.
On y revient, on va écouter le groupe sénégalais Daraji Potunda, qui est d'ailleurs en concert au musée du Quai Branly, aujourd'hui à Paris.
Thank you. more talent, send the guy. You took a catch up with your left eye. Mamma, 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 yaki yaki, people were part of Allah, who jalu, boku, hitting a mara. I'm gonna
be boy, so what if?
Daraji sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons des ZEP. Alors, vos établissements sont en zone d'éducation prioritaire tous les deux, Chantal Aounou et Émeric Patricot. Maintenant, il y a une nouvelle appellation qui s'appelle CLAIR, C-L-A-I-R. Votre établissement, Chantal Aounou, est en zone CLAIR?
Oui. Tout à fait.
Ça vous a fait beaucoup rire pendant le disque, parce qu'effectivement, c'était pas rendu compte du jeu de mots qu'on pouvait faire.
Oui, c'était.
Alors, vous veniez de nous dire que la majorité de vos élèves sont noirs. C'est assez drôle.
Oui.
Alors, CLAIR, pour l'éducation nationale, ça veut dire collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Ça vous semble totalement hypocrite, cette appellation. Avant, ZEP, ça voulait dire zone d'éducation prioritaire.
Le terme ZEP était peut-être pas très, très joli. Hein, mais il considérait un territoire et non pas quelques élèves qu'on allait essayer d'exfiltrer en servant d'alibi à la relégation de l'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, Claire ? C'est une mystification.
Mais c'est surtout que collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite sont justement des établissements où l'on ne réussit pas.
Ah ben, on pourrait toujours se dire, parce qu'il faut avoir un projet, il faut vouloir réussir. D'ailleurs, il faut mettre les écoles devant. Le ministère a mis 6 mois à réaliser, mais ciel, il n'y a pas les écoles.
Les écoles primaires.
Les écoles primaires et maternelles. Mmh. Et puis, pourquoi changer un dispositif comme les ZEP ? Elles ont 30 ans. Mais quand même, il y a une grande discontinuité. Ça a véritablement fonctionné que de 1980 à 1984.
Alors, c'était inventé 90, par la gauche, hein, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que le bilan est très mitigé des aides, parce qu'on a multiplié les aides, qu'on les a trop distribuées.
Non.
Le dispositif du gouvernement consiste au contraire à restreindre les aides, moins d'établissements, plus d'argent.
Non, c'est pas tout à fait ça. D'abord, il n'y a pas eu de continuité politique.
105 établissements, hein, au lieu de 1000 dans les ZEP.
105, ça, c'est les annonces, c'est de la com ministérielle.
Ah.
C'est de la com ministérielle. Aujourd'hui, les ZEP, c'est 254 réseaux ambition réussite et 856 réseaux de réussite scolaire. Pratiquement, les 254 réseaux ambition réussite vont passer, contraint forcé, dans le nouveau dispositif clair. Alors qu'ils étaient déjà engagés pour la plupart pour des nouveaux contrats de 4 ans. Ces contrats étaient très importants parce qu'on parle de qualité. Moi, j'ai rencontré, dans le cadre de l'Observatoire, beaucoup d'équipes qui travaillaient dans le réseau Ambition Réussite. Il y a les fameux enseignants référents du collège et des écoles qui travaillent ensemble pour bâtir des constructions de la continuité entre l'école et le collège. Des enseignants
d'anglais... Qu'est-ce que
ça veut dire? Ça veut dire comment enseigner le français en CM1, CM2, 6e, 5e, sans qu'il y ait trop de rupture, sans qu'il y ait trop de rupture pour les élèves. Mmh. En bâtissant des évaluations communes. Des enseignants qui enseignaient de collège en école en collège. Des enseignants d'anglais qui font du théâtre en école maternelle. Donc qui donnent du sens à l'école, parce que c'est bien ça, c'est ça la qualité.
Alors justement, Chantal Aounou, vous menez un projet avec vos élèves, en tant que professeur d'histoire géo à Sarcelles, un projet de théâtre. Mmh. Expliquez-nous en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça apporte à vos élèves, et est-ce que vous manquez de moyens? Est-ce que c'est typiquement ce type de projet qui est susceptible de s'arrêter du jour au lendemain par manque de moyens?
Nous avons dans l'établissement une classe horaire aménagée théâtre, et pas seulement, mais principalement une classe horaire aménagée théâtre qui est portée par le théâtre de l'Odéon et la volonté d'Olivier Py. C'est vrai que on a là vraiment le moyen de porter aussi l'excellence.
Parce qu'on travaille évidemment au théâtre la langue française.
On travaille la belle langue française.
Et les élèves, aiment-ils cela?
Les élèves, ils adorent. Ils adorent être dans ce projet. Ils adorent être à l'Odéon.
Il n'y a pas que des filles, bonnes élèves, et les garçons.
Non, parce qu'au départ, les élèves ne sont choisis que sur la motivation.
Et pas leur niveau scolaire.
Pas forcément les niveaux scolaires, puisque cette année, on a deux élèves non francophones. Nous avons un élève autiste, qui d'ailleurs est un des meilleurs élèves de la classe. On est vraiment sur la motivation, sur le désir.
Qu'est-ce qui vous surprend dans ce projet?
Mais que les enfants ont beaucoup d'espoir en l'avenir, justement. Qu'ils sont heureux. Qu'ils font tomber des inhibitions, qu'ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes, et je les vois sourire, être bien dans leur peau, et voilà, j'en suis très heureuse.
Et avoir du plaisir à travailler des textes, pas toujours très simples.
Avoir du plaisir à aller voir travailler des textes extrêmement difficiles. En début d'année, ils sont allés voir La Cerisée. Mise en scène par
Tchekhov, hein. Pas simple comme théâtre.
Ouais. Pas simple, mais ils ont tout compris. Voilà. En sixième.
Alors, ce genre de projet, ça existe quoi? Ça tient un fil, la bonne volonté de tout le monde, le théâtre de l'Odéon, vous qui avez envie de donner du temps en plus ou quoi?
Ça tient vraiment à une équipe soudée, du principal. Au théâtre de l'Odéon, à Christophe Théioux.
Et vous avez le sentiment que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain? Vous avez un sentiment d'insécurité par rapport au projet que vous menez élèves?
On a un sentiment d'insécurité parce que l'enjeu est énorme, mais en même temps...
Pourquoi l'enjeu est énorme?
L'enjeu est énorme parce que il faut tenir 4 ans. Avec les mêmes élèves, parce que l'objectif, c'est que on veut en faire d'excellents élèves, et ça tient qu'à un fil à cause des moyens financiers.
Ça va vraiment à l'encontre de cette principale qui vous avait découragé le premier jour, Émeric Patricot, quand vous êtes arrivé à Vitry-sur-Seine, qui vous a dit « donnez pas de devoirs le soir, ça ne sert à rien, vous en rendrez compte ».
Moi, je partage toutes les analyses de ma collègue. Les élèves, pour peu qu'on... On travaille avec eux et ils acceptent tous les textes, ils sont ravis de travailler dessus. Molière, je suis fasciné à quel point Molière peut être étudié dans toutes les classes, même de 5e, 6e, même les plus difficiles. Alors, pour peu qu'on obtienne un peu de calme et qu'on arrive à les motiver pour travailler.
Alors qu'est-ce qui manque?
je sais pas, il faudrait, je pense, dans certains collèges, des classes de 10 élèves, 10-15, avec
et
des
là,
profs expérimentés qui ont de l'autorité, des surveillants. Moi, ce qui me manquait dans mon collège, c'était des surveillants. On ne pouvait pas renvoyer les élèves de classe parce qu'on manquait de surveillants.
L'expérience auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'était souvent la co-intervention d'enseignants. C'est-à-dire qu'ils sont deux dans la classe. Deux
et ça,
dans
ça
la
change
classe.
Tout
ben, bien sûr. D'abord parce que pour l'enseignant lui-même, il n'a pas le même poids sur les épaules. Et ensuite, il y a une double démarche. Il y en a qui peut se consacrer à un petit groupe d'élèves en difficulté et l'autre travaille sur l'ensemble de la classe.
Merci à tous trois, hein, Chantal Aounou, Marc Douer, Observatoire des ZEP, Émeric Patricot. Vous publiez Autoportrait du professeur en territoire difficile chez Gallimard. Lundi, 7 milliards de voisins. Là, nous parlerons de l'habitat et de ces programmes immobiliers qui courent après le profit, qui construisent vite et mal dans les villes, notamment en développement. Alors, si vous avez parfois l'impression d'habiter dans des appartements en carton-pâte, appelez-nous tout de suite au 33 1 56 40 21 71. Il y a bien sûr la page Facebook sur laquelle vous pouvez déjà réagir ou notre mail 7milliards@rfi.fr. Merci à l'équipe de 7 milliards qui prépare l'émission tous les jours. Véronique Durand, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Gabriel Desanges. Dans quelques instants, ça sera le journal sur RFI. Très bonne fin de semaine. Vivement lundi.